Deutsche Welle. Droits et libertés.
Un drone, l'alternative devant laquelle il se trouve est très simple. C'est soit on frappe, soit on ne frappe pas. Et lorsque l'on frappe, le risque de générer des dommages collatéraux est bien plus grand que si l'on envoyait des hommes sur le terrain pour réaliser un travail d'enquête et ensuite démanteler éventuellement un réseau, une partie du réseau terroriste.
Je vous propose aujourd'hui d'écouter ou de réécouter un magazine du 24 juin 2013 sur ces engins volants sans pilote qu'on appelle les drones. Ils sont très utilisés pour frapper des cibles dans des pays comme le Yémen et le Pakistan. Mais depuis peu, la force de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, est aussi équipée en drones de reconnaissance. Nous verrons avec un expert en quoi ces engins peuvent porter atteinte aux droits de l'homme. Bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Piron. Dépêche de l'agence France Presse du 8 juin dernier. Depuis août 2008, près de 300 bombardements de drones américains ont fait plus de 2000 morts, en très grande majorité des combattants islamistes, selon les autorités pakistanaises. 9 juin, toujours selon l'AFP, 7 membres présumés d'Al-Qaïda tués dans 4 raids aériens, probablement par un drone américain, dans la province yéménite du Jouf, frontalière de l'Arabie saoudite. Barack Obama, le président américain, a un faible pour ces appareils dont il fait un usage massif. Les États-Unis les utilisent en Afghanistan et au Pakistan, mais aussi au Yémen et en Somalie. Washington considère à présent le drone comme la meilleure arme contre les terroristes. C'est une arme indolore pour les soldats, mais qui peut être meurtrière pour les civils. Pour parler des risques que représentent les drones en termes d'atteinte aux droits de l'homme, j'ai joint à Bruxelles Alain Deneuve. Il est chercheur à l'Institut supérieur royal de défense, en Belgique donc, et il nous explique tout d'abord ce qu'est un drone.
C'est un aéronef qui n'est pas piloté directement par un pilote, mais qui est piloté à distance. Alors vous avez plusieurs types de drones qui sont classés en fonction de leur performance, c'est-à-dire que vous avez des drones de moyenne et de longue altitude, ou des drones qui servent des objectifs tactiques simplement, donc qui n'ont que quelques kilomètres d'endurance, simplement pour les besoins d'un espace de bataille. Et en général, il s'agit dans ce cas-là de drones de reconnaissance et de surveillance. En dehors de ce premier groupe de systèmes, vous avez, et c'est ce dont on parle plus récemment avec la politique mise en œuvre par Obama en la matière, ce sont des drones de moyenne altitude, longue endurance, ou qui sont en fait armés de systèmes de missiles. Ce sont en général des missiles Hellfire ou des missiles Stinger.
Alors, en quoi est-ce que l'emploi de ce genre d'armes, disons, se différencie-t-il d'une arme classique ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est plus grave ?
À la base, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre, je dirais, l'emploi d'un drone et l'emploi, par exemple, d'un missile. Quand l'on parle, par exemple, de l'emploi de missiles de croisière, ce sont aussi des systèmes que l'on utilise pour frapper à longue distance contre des objectifs très ciblés. La différence qu'il y a, en fait, avec l'emploi des drones, c'est que le drone permet une frappe d'opportunité. C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé un missile plus coûteux à la base. Et pour réaliser des frappes ciblées de personnes, donc d'activistes suspectés de terrorisme dans le cadre d'Al-Qaïda ou dans le cadre de groupes se revendiquant d'Al-Qaïda, vous utilisez des systèmes de drones qui sont moins coûteux à l'utilisation et qui évitent surtout essentiellement l'intervention du facteur humain, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en péril des vies humaines de votre propre côté. La difficulté et le principal problème qui se pose, enfin, je ne dirais pas que c'est le principal, mais en tout cas l'un des principaux problèmes qui se pose avec l'utilisation des drones, c'est que cela suppose soit l'accord des autorités locales pour utiliser votre espace aérien, soit une violation de cet espace aérien. Et bien souvent, il faut reconnaître que les États-Unis déploient ces systèmes de drones pour des frappes ciblées en n'avertissant pas les autorités locales, notamment les autorités pakistanaises. Donc vous avez déjà cet aspect-là qui est pris en compte. Un autre aspect, c'est le désinvestissement, je dirais, politique de l'État qui emploie ce type de système pour réaliser des frappes ciblées. En utilisant des systèmes robotiques de la sorte pour réaliser des missions d'assassinat, il faut appeler les choses par leur nom, vous faites passer un message dans lequel vous dites implicitement que vous ne considérez pas la situation comme suffisamment importante que pour déployer des hommes, davantage d'hommes sur le terrain, mais que vous voulez simplement éradiquer ce que vous considérez comme la source du problème, c'est-à-dire une ou l'autre personne qui sont suspectées d'avoir engagé des préparatifs d'attaque contre les États-Unis.
Et même à supposer qu'on éradique, disons, les méchants, on éradique malheureusement aussi beaucoup de personnes à côté qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire.
Tout à fait. Il y a évidemment des estimations qui ont été faites, notamment par l'America Foundation, sur le nombre de pertes civiles, de dommages collatéraux lors de ces attaques de drones. Quel que soit le niveau de perte, ce niveau de perte est considéré comme inacceptable, et c'est bien normal, compte tenu justement de la nature de l'opération.
Alors c'est un type d'armement relativement récent, depuis quelques années. Est-ce que l'on s'est penché sur la question? Est-ce que c'est compatible avec le droit international humanitaire, le drone armé?
C'est la question qui est actuellement posée, notamment au niveau de l'ONU, de déterminer justement si l'emploi de drones peut être considéré comme, je dirais, un mode d'action proportionné en temps de guerre. L'autre question est aussi de savoir si nous sommes bien en temps de guerre. La tentation qu'il y a avec l'emploi des drones est peut-être aussi de frapper en dehors même de tout contexte de guerre tel qu'on l'entend la plupart du temps. Il y a cette tentation d'utiliser le drone pour éviter justement de recourir à des modes d'intervention qui sont plus proches de la guerre. Il y a cette idée, un peu naïve peut-être, sans doute, de pouvoir quelque part contrôler à distance des facteurs de crise, des éléments de crise, en les éliminant. Et pour les éliminer, il s'agit d'utiliser des systèmes robotiques qui ne mettent pas en danger la vie des hommes.
Alors cela, c'est pour les drones armés, utilisés donc pour des frappes destinées à tuer, mais il y a aussi les drones civils. Certains sont utilisés par exemple pour surveiller des manifestations, et là aussi, cela peut déboucher sur des atteintes aux droits de l'homme.
Disons que la machine en soi ne viole pas les droits
non,
de l'homme.
C'est toujours l'emploi
qui en effet qui suscite la controverse et qui pose question évidemment. Des systèmes tels que les drones sont des systèmes qui reçoivent des applications à la fois militaires et à la fois civiles. Et on voit très bien tout le potentiel que présentent les drones dans le cadre d'opérations policières. Surveillance des foules à distance de sécurité, des drones équipés de toutes sortes de capteurs qui peuvent véritablement scanner et scruter les territoires, les populations de ce territoire. Il y a véritablement ce qu'on peut appeler une sorte de contrôle des corps. C'est une sorte de biopolitique qui est mise en place par les États qui ont les moyens de se doter de ce type d'infrastructures. Pour ma part, je serais tenté de dire que l'utilisation des drones, en combinaison avec toute une série de programmes qui ont été relancés ces derniers temps, comme la défense antimissile, participe à une sorte de transformation géopolitique du monde, dans la mesure où on assiste de plus en plus peut-être à l'émergence de dômes de surveillance en divers endroits de la planète. On sent que les nations occidentales ne sont plus tellement enclines à se lancer dans des expéditions militaires avec présence humaine. Les systèmes robotiques offre une sorte de solution de remplacement, mais effectivement, en posant d'énormes difficultés en matière de respect des droits de l'homme, et pose également pas mal de problèmes à propos de la question de savoir jusqu'où l'État peut aller dans la surveillance des territoires, qu'il s'agisse de son propre territoire ou de territoires étrangers, et surtout des populations.
Dans les pays occidentaux, c'est un engin que tout le monde veut avoir maintenant, et cela risque aussi de creuser encore un peu plus la fracture, je pense, avec l'Afrique, par exemple avec les pays du Sud, qui n'ont pas les moyens de se procurer ce genre d'engin et qui risquent d'être complètement contrôlés, surveillés par les
oui,
pays du Nord.
Précisément. Et c'est là où se situent sans doute les plus grandes inquiétudes. Alors pourquoi ? Pour l'instant, on a affaire à des systèmes qui sont je caricature, je grossis un peu le trait, mais ce sont des bricolages. Ce sont des systèmes d'armes, des missiles qui sont posés sur des systèmes droniques de reconnaissance. Et vous avez encore, même si ces systèmes sont relativement plus discrets qu'un, je sais pas, un chasseur ou un bombardier, vous avez encore affaire à des systèmes visibles. Il y a deux évolutions pour l'instant qui sont en cours. La première, c'est une ultra-miniaturisation de ce type de système. Il y a la tentation, dans pas mal d'États occidentaux, de développer la miniaturisation, l'ultra-miniaturisation de ces systèmes, notamment en recourant aux percées des nanotechnologies, des biotechnologies. Pas mal de recherches sont conduites, et d'ailleurs, dans ce secteur. Et là, effectivement, vous avez un véritable problème qui va se poser en matière de surveillance totale des territoires et des populations. À l'inverse, vous avez aussi une autre tendance qui va vers une plus grande amplitude des systèmes déployés. Et là, on ne parle plus de drones armés, mais on parle véritablement de drones de combat, de drones de bombardement. Alors, quelle est la particularité dans ce cas-là du drone de combat ? C'est que c'est un drone de plus grande ampleur. Il a l'ampleur d'un chasseur-bombardier de type, de type Rafale, F-16. Il a en plus une capacité d'emport en soute, ce qui lui permet d'être furtif. Et vous avez là véritablement une nouvelle génération d'aéronefs de combat qui pourraient se développer. Ces systèmes pourraient être déployés à grande échelle pour assurer, par exemple, qui sait, à l'avenir, des missions de dissuasion nucléaire, par exemple. Au lieu d'envoyer des bombardiers en permanence autour du globe avec des engins nucléaires, vous pourriez mettre en place un drone qui aurait pour mission d'assurer la permanence de la dissuasion nucléaire.
Alain Deneuve, chercheur à l'Institut supérieur royal de défense à Bruxelles. Vous l'aurez compris, les États-Unis sont à l'heure actuelle le principal producteur et utilisateur de drones. Israël est quant à lui le deuxième pays producteur. Ainsi s'achève ce magazine Droits et Libertés. Merci de nous avoir prêté votre attention. Au micro, Marie-Ange Pierre.